même que un musicien, c'est comme Mozart, va faire tourner les messes à l'opéra et va essayer de monter ça en prouvant par la musique toute la sensualité que ça recèle. De même ça, le premier met à plat l'idée même d'avoir pensé à ce sacrifice, à la messe, veut dire par rapport à la perversion que ça peut déclencher. Hein. Bon, c'est pour ça que ça, c'est le grand écrivain de cette affaire. Tout le temps, il y revient avec une précision maniaque. Et Juliette héroïne féminine est censée, toujours avec humour, hein, très ambigu, très ambivalent, représenter la philosophie qui va être victorieuse et apporter la lumière par rapport à toutes ces pratiques obscurantistes, vaguement magiques, et qui ne sont faites que pour assurer un pouvoir tout à fait réaliste qui se cache derrière tout ça. Bon, ça c'est la thèse classique de tous les philosophes à l'époque. Mais ça, le normal, la pousse à bout, et loin de faire un anticléricalisme rigolard, ce qui est encore notre lot. Eh bien, loin de faire simplement, si tu veux, du voltairianisme. Il n'y a rien de plus éloigné de l'esprit voltairien que Sade. Il pousse à bout. C'est pour ça qu'il est intolérable des deux côtés, ça. Enfin, quelqu'un de religieux au sens névrotique, ou quelqu'un d'anti-religieux au sens névrotique aussi, ne peut pas supporter cette espèce de radiographie violente. Alors, il fait ce geste de narratif extraordinairement fort, qui consiste à montrer le pape en faisant une messe noire au Vatican, enfin, à Saint-Pierre-de-Rome. Et alors ça va quand même très loin. Je me suis amusé à en parler. Donc je retrouve le passage, mon petit roman. Le narrateur va à Rome. Le narrateur discute avec un ami. Exclamation. Dans la séquence sur Saint-Pierre de Rome, j'aurais dû me promener avec Sade. Bien sûr, c'est la clé de Juliette. Ce que personne ne veut voir, me dit-il, c'est que tout le roman est construit autour de cet épisode central. La messe des messes noires. Comme quoi Sade a bien compris l'essentiel. C'est vrai. Il a senti comme personne qu'il fallait culminer là, au point juste, au lieu même de la négation suprême de la matière, à l'oméga du parcours. Faire fulminer le retour du refoulé, les cultes abolis les plus archaïques. Récapituler l'histoire du coït, depuis la préhistoire la plus enfouie, avec une majesté de dinosaures, insatiables, écumants, sacrifices humains, mayas, tripes de tripes, giclages en plein charnier successif, viscères déployés, cervelles éclatées, fœtus foulés aux pieds, tringlages de culs à la chaîne, gougnoteries en série, décapitations, monstruosités lentes, pentes lentes. Le plus amusant, c'est la façon dont le mot de l'époque, pour désigner le pénis, la queue, la bite, a vieilli, le vite, véité. Le vite du pape, démasqué par la philosophie, échappé du boudoir pour entrer triomphalement dans la basilique. Aujourd'hui, l'église devrait être remplacée, je ne sais pas moi, par l'université, la Sorbonne ou Paris 8, ou encore mieux, par une salle de rédaction, de la télévision, de la radio, la nuit. Voilà comment vous devez baiser pour passer demain à l'antenne, à l'heure de plus grande écoute. Tout évolue. On pourrait garder Juliette. La philosophe en action. Le pauvre pape, mis en scène par Sade, n'est autre que Piscis, Jean-Ange Braski, né en 1717, mort en France, à Valence, en 1799. Les dates parlent d'elles-mêmes. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Sade fait de Piscis un blasphémateur, un enculé, enculeur, un fouteur, un dépeceur. Il semblait éprouver une rage particulière, le délicieux marquis, à représenter tout ça sous le baldaquin de Saint-Pierre. Les hosties consacrées, posées sur les vites, en érection, et aussitôt transférées dans les culs forcés des victimes. Quel éloge de la transsubstantiation! Quelle vertigineuse analyse concrète de l'Eucharistie! Quelle intuition du fonctionnement du grand tube humain, du serpent digestif lui-même! Quel prodigieux effort de résistance à l'endroit exact où la péripétie humaine est intrinsèquement dévoilée. Quelle vision des messes incessantes, mêlées à des sacrifices répétés, inouïs. Sade ou la théologie, malgré lui. On immole les corps attachés aux quatre colonnes. Bref, Bernini, le baldaquin, a beaucoup frappé l'imagination de notre écrivain, le meilleur, le plus honnête. Et Rome, et l'Italie, le Vésuve, Naples, Olympe, Borghèse, Princesse, la Duchesse de Grillo, le Cardinal de Bernis, Albani. Au passage, je signale que, évidemment, il faut regarder les écrivains français par rapport à l'Italie, de Sade à Stendhal, en passant par tout ce qu'on veut. Mais le voyage d'Italie de Sade prouve à quel point il était attentif à l'architecture, à la peinture, etc. Et toutes les sensations et les décors de ses romans. Les tableaux, les postures même, sont empruntés au grand art italien. Habileté de Sade, c'est le père supérieur violé par la fillette en fureur. Le père qui tourne au vert, le grand-père Vermier à nu par les chevelets en personne. Le fin fond du récit, curiosité brûlante, on s'en doutait, même si c'est archi-faux, c'est vrai quand même, le démon en direct, l'effroyable cynisme imparable. J'accorde tout cela. Il est plein de son sujet. C'est plus fort que Diderot, plus acharné, plus révélateur de la tornade qu'a secoué la France, puis l'Europe, puis le monde. « Un homme comme moi ne se souille jamais, ma chère fille, » me répondit le pape. « Successeur des disciples de Dieu, les vertus de l'Éternel m'entourent, et je ne suis pas même un homme quand j'adopte un instant leurs défauts. » Sade se fait baiser comme un pape. Insulté, fouetté, ordurifié, sans perdre d'instant sa souveraineté, il se donne le démon femelle adéquat, le succube rationaliste de luxe. Juliette est implacable. Elle dérobe la caisse, elle pille le trésor, elle arrache les faux semblants de l'hypocrite, de l'infâme, elle veut une franchise totale, Juliette. La vérité, la virilité, Caton, Brutus. On les voit, ces deux-là, dans le théâtre en question, la gueule qu'ils feraient, l'antiquité à poil dans la sodomisation intégrale, Platon et Aristote en orgie. Voyons ce que dit Sade du Christ. Résumant l'esprit de l'époque et le portant immédiatement à son comble. Examinons donc ce polisson. Que fait-il? Qu'imagine-t-il pour nous prouver son Dieu? Quelles sont ses lettres de créance? Des gambades, des soupers, des putains, des guérisons, de charlatans, des calembours et des escroqueries. Comme le dira plus tard Goebbels, dans le genre sinistre, plus c'est gros, plus ça marche. Rien n'est plus crédule que l'espèce humaine. Surtout quand on lui prêche l'incrédulité. Logique à suivre, assez simple au fond. Vous prenez ce qu'il y a de plus respecté, de plus sacré. Vous foncez dedans froidement. Vous montrez que ça ment, partout et toujours. Que ça ne montre des vertus que pour dissimuler des vices. Ça fonctionne, à coup sûr. Tel est le ressentiment latent. Vous faites pisser la vésicule, déborder la bile. Comment cela? À l'héroïne, à la femme, porte-lumière, à Lucifer, elle a des nerfs d'acier. Rien ne l'arrête, le coup de génie est là, une femme ravageant la baise, comme si c'était possible. Crédulité surplombante, l'impossible, donc le réel dont on rêve. Plus un être d'esprit, ça c'est Sade, plus il brise de frein. Plus un être a d'esprit, plus il brise de frein. Donc, l'homme d'esprit sera toujours plus propre qu'un autre, au plaisir du libertinage. Le vide du pape, cadeau du vice à la vertu, merci. Il n'y a que les vrais salopards pour trouver ça illisible, monotone, ennuyeux, Quand vous entendez ça, gaffe, vous êtes chez les ploucs qui croient que tout ça est réel, que le pape n'arrête pas d'enculer les masses. Sade, continue-t-il, est visiblement révulsé ou feint de l'être à les savoir par deux choses. La première, que quelqu'un ait osé donner un coup d'arrêt à la nature, dans ce qu'elle a de plus sacré, l'excitabilité sexuelle. Il ressent ça comme une castration insupportable. Il veut démontrer qu'il n'en est pas question, que la machine à faire du foutre à travers le meurtre est infinie, comme l'espace et le temps, montrant par la même précieuse démonstration qu'à la base de toute sexualité, il y a en effet le meurtre. La seconde, et nous retrouvons ici le lieu commun des philosophes, consiste à s'indigner que ce Dieu parle par des jeux de mots. L'imbécile Jésus qui ne parlait que par logogriffe, écrit-il. Tout le christianisme, comme le judaïsme d'ailleurs, est fondé, c'est ça l'horreur, sur, dit-il, de fades allégories où les lieux sont ajoutés aux noms, les noms aux lieux et les faits, toujours sacrifiés, à l'illusion. C'est l'indication de l'autre monde par dérivation. Plus de limite au corps, or on ne vibre que sur cette limite. Du coup, cette histoire de pierre devenue pierre à l'envers de la pierre tombale sur laquelle on jouit leur paraît une plaisanterie du plus mauvais goût. De quoi s'agit-il ? D'affirmer des noms, des lieux et surtout des faits. La philosophie est toujours plus ou moins policière dans l'âme. Elle doit récuser l'équivoque, le sexe métaphorisé. Elle coupe, elle découpe. Pourquoi ? Parce qu'elle ne saurait douter un seul instant de la réductibilité de toute chose à une mesure simple, littérale. Allons, allons, dit-elle. On ne nous la fait pas. On sait à quoi s'en tenir, derrière les apparences, et les beaux discours, et les sermons, et les processions, et les confessions. Branlette, sucette, tromperie partout, passion d'abuser pour exploiter. Extraordinaire non de penser que les hommes ont pu former le délire de croire à une volonté consciente de mensonge, à un grand théâtre de dupes voulues et organisées. Notez que ce délire viendrait d'une femme devenue enfin lucide, portant donc désormais le flambeau de la vérité. D'ailleurs, vous n'avez qu'à rouvrir le rêve de D'Alembert. Ça finit sur les considérations sur les manipulations génétiques. Même que Mademoiselle de Lespinasse en est tout émoustillée. Cela dit-il, le cas de Sade reste incroyable. Quel romancier ! En réalité, sa provocation est si énorme qu'elle demeurera toujours ambiguë, point d'orgue, machine infernale, tant qu'il y aura des corps. Finalement, il n'y a pas d'autre inconscient que l'inhibition à lire Sade. Et j'appelle inhibition non pas seulement le fait d'être incapable de le lire par écœurement ou dégoût, mais aussi celui de le prendre à la lettre. Comme cet ineffable crétin, peintre, je crois, ou plutôt peinturlureur surréaloïde, qui s'est fait imprimer au fer rouge un soir les capitales Sade sur la poitrine au cours d'un pauvre rituel fétichiste. Le surréalisme, parlons-en, les pruderies occultes de Breton, l'imposture minaudière d'Aragon, l'exaltation antisexuelle d'Artaud. Seule Bataille garde un peu d'allure dans ce grand capharnaüm refoulant. Surtout par rapport à Sartre, la nausée, c'est le cas de le dire, jeûner, bref, sexuellement rien, quel désastre. Le nouveau roman, vous voulez rire, rien, rien, pas la moindre femme plausible. Donc rien, pas un livre, même pas un passage érotiquement consistant. Mais passons, musique, enfonçons-nous dans le mouvement. Musique. En réalité, ce qui rapproche ça des Mozart, c'est qu'ils ne sont pas autrement étonnés et impressionnés par le fait d'être nés. Et par conséquent, la mort ne leur paraît pas non plus une chose si intéressante et si effrayante. Il s'ensuit beaucoup de conséquences. J'ai ça de l'idée que la nature étant éternelle, composée d'atomes, thèse matérialiste classique, la composition de ces atomes se reconstituera d'une autre façon dont il n'a pas la moindre idée, dont il ne veut pas avoir d'ailleurs la moindre idée. Et surtout, culmine dans ce défi qui consiste à vouloir disparaître complètement sans aucune trace de sa tombe. Il le dit le plus expressément qu'il soit dans son testament qu'on l'enterre n'importe où, dans un bois, qu'on sème des glands sur sa tombe, qu'un taillis s'y forme, que la forêt recouvre tout. Comme il se flatte, dit-il, que sa mémoire disparaîtra de celle des hommes. Défi qu'on peut mettre dans la voie même de Don Juan, du Don Juan de Mozart. C'est la meilleure façon de se rendre inoubliable, de tabler sur le fait qu'on se fout complètement d'être oublié. Ça a une autre conséquence, c'est une particulière désinvolture quant à la généalogie. À part l'or, Sade est très à l'aise avec sa généalogie. Ça lui permet d'ailleurs d'être du jour au lendemain aussi révolutionnaire qu'on veut. Il ne tient pas plus que ça à la continuation génétique aristocratique. Et pourtant, il reste complètement aristocrate. Sur un autre plan, celui dont je suis en train de parler. Par conséquent, les parents, qui sont devenus la grande affaire du 19e siècle, et qui pèsent encore sur nous de toute la théorisation qu'on en fait, sont encore traités, à cette époque bénie, avec une distance et une légèreté totale, qui nous paraît inhumaine, comme quand on lit les lettres de la marquise de Sévigné. Entre une mère et une fille, il pouvait y avoir cette marquise-là. Elle s'est fait lire par sa fille, celle-là. En tout cas, Mozart, qui est à Paris en 1778, devrait, selon nos critères psychologiques, être extraordinairement affecté par un événement considérable qui vient de lui arriver. C'est tout simplement la mort de sa mère. Or, voici la façon dont il en parle à son père le 3 juillet. Mon très cher père, j'ai une nouvelle très fâcheuse et très triste à vous donner, qui est aussi cause que je n'ai pu répondre plus tôt à votre dernière lettre en date du 11. Ma chère maman est très malade. En réalité, on sait qu'elle était morte pendant la nuit. Elle s'est fait saigner selon son habitude, et c'était aussi très nécessaire. Elle a été très bien après, mais quelques jours plus tard, elle s'est plainte de frissons, puis tout de suite aussi de chaleur brûlante. Vint la diarrhée, le mal de tête. D'abord, nous avons employé nos remèdes domestiques, la poudre antispasmodique. Nous aurions volontiers pris aussi la poudre noire, mais elle nous faisait défaut et nous n'avons pu nous en procurer. Elle n'est pas connue. Alors, comme l'état devenait de plus en plus grave, elle pouvait à peine parler et elle avait perdu l'ouïe au point qu'il fallait crier, le baron Grimm a envoyé ici son docteur. Elle est très faible, elle a encore de la fièvre, elle délire, on me donne de l'espoir, mais je n'en ai guère. Je suis déjà depuis longtemps, jour et nuit, entre la crainte et l'espérance. Mais je me suis remis entièrement à la volonté de Dieu. Et j'espère que vous et ma chère sœur en ferez autant. Quel autre moyen pour être tranquille ? Plus tranquille, veux-je dire, car complètement, on ne peut l'être. Je prends courage, quoi qu'il puisse arriver, parce que je sais que c'est Dieu qui ordonne tout pour notre plus grand bien, même si nous trouvons que les choses vont de travers, qui le veut ainsi. Je crois en effet, et on ne me persuadera pas le contraire, aucun docteur, aucun être humain, aucun malheur, aucun accident ne peut donner et retirer la vie à un être humain, mais Dieu seul. Ce ne sont là que des instruments dont il se sert ordinairement, et encore pas toujours. Nous voyons bien que des gens chancellent, tombent et meurent. Quand une fois le temps est venu, tous les remèdes sont vains. Ils avancent plutôt la mort qu'ils ne la retiennent. Je ne dis pas pour cela que ma mère va mourir. Je précise qu'elle est morte, ou qu'elle doit mourir, que tout espoir est perdu. Elle peut redevenir fraîche et bien portante, mais seulement si Dieu le veut. Après avoir de toutes mes forces prié mon Dieu pour la guérison et la vie de ma chère mère, je m'entretiens volontiers de telles pensées, de telles consolations, parce qu'ensuite, je me sens plus de cœur, de calme et de soutien, car vous vous imaginerez facilement que j'en ai besoin. Maintenant, parlons d'autre chose. Laissons ces tristes pensées. Espérons, mais pas trop. Mettons notre confiance en Dieu et consolons-nous avec cette pensée que tout va bien quand c'est suivant la volonté du Tout-Puissant, car c'est lui qui sait le mieux ce qui nous est avantageux et utile à tous pour notre bonheur et notre salut, aussi bien dans le temps que dans l'éternité. J'ai dû faire une symphonie pour l'ouverture du concert spirituel. Elle a été exécutée le jour de la fête de Dieu avec un applaudissement général. D'après ce que j'entends dire, il en a été fait mention dans le courrier de l'Europe. Elle a donc plu, exceptionnellement. À la répétition, j'ai eu très peur, car de ma vie, je n'ai rien entendu de plus mauvais. Vous ne pouvez vous imaginer comment ils ont deux fois de suite bâclé et raclé à fond la symphonie. J'étais vraiment très inquiet. Je l'aurais bien fait répéter une fois de plus, mais on a toujours tant de morceaux à répéter qu'il n'y avait plus assez de temps. Et je dus aller me coucher, le cœur inquiet et l'humeur mécontente et furieuse. Le lendemain, j'avais pris la résolution de ne pas aller du tout au concert, mais il fit beau le soir et je finis par me décider, avec le dessin arrêté, si cela marchait aussi mal qu'à la répétition, de pénétrer dans l'orchestre, de prendre le violon des mains de monsieur Lausay, le premier violon, et de diriger moi-même. Ah, ces musiciens français. Je priais Dieu qu'il me fît la grâce, que tout marchât bien, puisque tout est pour son plus grand honneur et sa gloire. Et la symphonie commença. Raph était assis à côté de moi, juste au milieu du premier allegro. Était un passage que je savais bien devoir plaire. Tous les auditeurs en furent transportés. Et il y eut un grand applaudissement, comme je savais bien, quand je l'écrivis, quelle sorte d'effet il ferait. Je l'avais ramené une seconde fois. À la fin, même accueil, ta cape. L'andante et plus aussi particulièrement le dernier allegro. J'avais entendu dire qu'ici tous les derniers allegro commencent comme les premiers, avec tout de suite l'ensemble des instruments et généralement unisono. Aussi commençais-je avec les deux violons, seul le piano, et pendant 8 mesures seulement. Puis, là-dessus, tout de suite, un forte, de sorte que les auditeurs, comme je m'y attendais, firent « chut » au moment du piano. Et lorsque soudain éclata le forte, entendre le forte et battre des mains fut tout un. Dans ma joie, sitôt la symphonie achevée, je m'en allai au Palais Royal, pris une bonne glace, dis le chapelet que j'avais promis de lire, et rester à la maison, car c'est toujours à la maison que je suis le mieux, c'est toujours à la maison que je serai le mieux, ou bien chez un bon vrai loyal allemand qui, s'il est célibataire, vit pour lui-même en bon chrétien, et s'il est marié, aime sa femme et aime bien ses enfants. Maintenant, je vous donne une nouvelle que vous aurez peut-être déjà su. L'impie, le maître fourbe Voltaire, est crevé, autant dire comme un chien, comme une brute. Voilà ses gars. Tout ceci est écrit avec le cadavre de sa mère à côté de lui. à son père. À son père, qui l'a quand même également beaucoup ennuyé, et dont il a fini par devenir le père, Mozart, le petit Mozart. Il a quand même réussi à faire de son Léopold musicien de père son fils. De le traiter avec paternalisme. Il va mourir, ce père, en 1787. On est tout près de Don Juan. Les choses sont de plus en plus claires. J'apprends, écrit-il à son père en cet instant, même une nouvelle qui m'accable beaucoup. D'autant plus que d'après votre dernière lettre, je pouvais imaginer que vous vous portiez, grâce à Dieu, fort bien. Or voici que j'apprends que vous êtes sérieusement malade. Avec quel ardent désir, j'attends de vous-même une consolante nouvelle, je n'ai vraiment pas besoin de vous le dire. Mais je l'espère aussi, comme certaine, bien que je me sois fait une habitude, en toutes circonstances, de me représenter toujours le pire. Comme la mort, à y regarder de près, et le vrai but final de notre vie, je me suis depuis quelques années tellement familiarisé avec cette véritable et parfaite amie de l'homme, que son image, non seulement n'a plus rien d'effrayant pour moi, mais très apaisante, très consolante. Et je remercie mon Dieu de m'avoir accordé le bonheur de saisir l'occasion, où vous me comprenez, d'apprendre à le connaître comme la clé de notre vraie félicité. Je ne vais jamais au lit sans réfléchir que le lendemain peut-être, si jeune que je sois, je ne serai plus là, et pourtant personne de tous ceux qui me connaissent ne peut dire que je sois chagrin ou triste dans ma conversation. Je remercie chaque jour mon Créateur pour cette félicité et la souhaite cordialement à chacun de mes semblables. Voilà, le père de Mozart a la permission de mourir. Estremo periodo fatal su queste
figlio innocente alzar la sprabipenne. Ogni fibra già se fuggono le forze.